Philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 22 septembre 1994.
Vous avez déjà commencé l'année scolaire. Alors, et ce cours du matin, qui doit être un apéritif de la journée. Après, l'oraison du matin et la liturgie. Éveillez en nous la soif de vérité. Tous les cours de philosophie, tous et spécialement le cours de philosophie première, de métaphysique et de théologie naturelle, doit nous faire comprendre ce qu'est la contemplation. Le premier moment de la découverte de la sagesse. Cette sagesse acquise, nécessaire pour la sagesse théologique. Et ce n'est pas en premier lieu notre corps. Ce n'est pas... pas en premier lieu notre sensibilité, notre affectivité sensible, nos passions. C'est en premier lieu notre âme spirituelle. C'est notre âme spirituelle qui est capax dei, qui est capable d'être tournée immédiatement vers Dieu. Immédiatement. Par l'amour et dans une recherche de vérité pour l'intelligence. Et c'est très curieux de voir que notre volonté a une exigence d'amour plus immédiate à l'égard de Dieu, à l'égard de la vérité première. Notre intelligence qui, elle, découvre la vérité par étapes successives. Nous n'avons pas l'intuition de Dieu. C'est très dommage. Les anges ont une quasi-intuition de Dieu. Tandis que nous n'avons pas l'intuition de Dieu. N'avons pas d'expérience immédiate de Dieu au plan naturel. C'est tout un labeur de recherche qui progressivement s'impose à nous comme une nécessité, comme la nécessité de notre vie spirituelle qui a besoin de découvrir la vérité pour être parfaitement ce qu'elle doit être. Mon intelligence n'est elle-même que quand elle découvre la vérité. Et ça, c'est un point qui est très important à découvrir progressivement. Que notre intelligence n'est vraiment elle-même que quand elle découvre la vérité. Elle est faite pour cela. Quand elle reste dans l'opinion, des journalistes, des journalistes. C'est pour ça que Marthe Robin n'aimait pas les journalistes. Parce que ils perdent beaucoup de temps et font perdre beaucoup de temps. Parce que les gens les lisent, n'est-ce pas ? C'est fait pour ça. Et en lisant leurs journaux, ils perdent du temps. On pourrait savoir les événements vrais hein, en quelques minutes. On raconte des tas d'histoires. À côté, c'est pour ça que vous êtes libérés des journaux. C'est une libération. Parce que c'est une perte de temps. On reste sans l'opinion. Bœuf Méry, dans une conférence qu'il faisait à Fribourg sur l'objectivité du journaliste, disait, Bœuf Méry était directeur du Monde, n'est-ce pas ? À cette époque-là, parce qu'il est mort depuis longtemps, Bœuf Méry disait, la vérité pour le journaliste, c'est de voir que l'événement qui se passe est conforme à son idée. Il fait devant ça, devant dans l'aula de l'université, tout en disant point de départ, parce qu'il voyait qu'il y avait des dominicains, j'étais du reste exprès, je me suis bien placé en face de lui. On enseigne Thomas d'Aquin, on sait ce que c'est que la vérité. Eh bien, pour le journaliste, la vérité, c'est ça. Et c'est très vrai, il construit la vérité, c'est pas un historien. Un journaliste n'est pas un historien. Il fait l'histoire, très différent. Alors, il reste dans l'opinion. Forcément, ça vient de lui, c'est sa vision. Eh bien, il faut nous purifier, parce qu'on est infecté par les journaux, on est infecté par la télévision, on est infecté par toutes les opinions. On s'est forcé, on vit dans le monde. Mais délivre-nous du mal. Et l'erreur est un mal. L'opinion prise pour être la vérité est un mal. énorme. Ils se croient les prophètes. Ils se croient les maîtres. C'est un peu comme du temps des sophistes en Grèce. Où les sophistes étaient là pour permettre aux jeunes de faire carrière politique. C'est-à-dire d'arriver à transformer la mentalité des gens pour s'imposer et dominer. Dans notre monde, on peut dire que les médias veulent former une mentalité. Ils sont téléguidés. Ils ne le savent pas toujours, mais ils sont téléguidés pour telle propagande. Pas la propagande de la foi. Sauf quelques-uns, peut-être. Mais c'est tout petit. Hein. Si vous faites la proportion dans les médias de ceux qui sont en propagande de foi et les autres propagandes d'opinion politique, vous voyez que c'est pas grand-chose. On vit dans un monde qui est téléguidé. L'esclavage de l'intelligence. C'est l'esclavage pire, hein, l'esclavage manuel. On est balayeur de rue. C'est pas très drôle. Mais on est libre au moins. On peut prier pendant ce temps-là. Tandis que quand on a l'esclavage de la pensée, on est pris par tout un contexte dont on a une peine énorme d'en sortir. Et le noviciat est fait pour en sortir. C'est fait. Et dans le noviciat, c'est pas la chose principale là, du noviciat. Vous avez les cours de philosophie pour que l'Esprit Saint, avec de la paille de fer, arrive à vous enlever toutes les crasses. Je suis passé lundi à notre nouveau petit prieuré à Paris, à Stanislas. Il y avait eu deux jours avant un incendie qu'on croit provoqué, paraît-il, dans la salle de sport. Oui, il ne faut pas trop rester dans les salles de sport, parce que ça prend feu. Voilà. On avait sans doute allumé là un feu, un incendie. Ils sont au cinquième et ça monte très vite. C'est pas le feu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le feu descendant. Tandis que là, il monte d'en bas. Et les propagandes, c'est le feu qui monte d'en bas. Et vous êtes d'attendre, il y avait toute une couche de saleté, de suie, partout. Et ça devenait tel qu'ils étaient obligés tous de partir. Grâce à Dieu, l'ascenseur marchait. Ils sont pas restés au cinquième en attendant d'être frits. Ça fait faire aux prieurs un acte de pauvreté héroïque en disant « Seigneur, j'offre toute ma cellule avec tous les papiers, avec tout mon travail depuis 10 ans. Je vous l'offre, il va peut-être brûler. » Parce qu'il voyait le feu monter. C'est bien de temps en temps. Là. De faire un acte héroïque. Oui, on redevient novice au bout de 10 ans avec tout ce qu'on a pu travailler. On a compris la finalité de ce feu provoqué per accidens par quelqu'un, sans doute avec une intention mauvaise, je crois. Eh bien, il faut décrasser tout ce que représentent ces opinions, ce feu qui vient d'en bas, et arriver à avoir une intelligence pure. Quand j'enseignais chez les Noviticains, et j'avais un cours en première année, parce qu'il y avait la première année qui était séparée. Ça aussi, c'est si on peut, on fera des petits cours de temps en temps pour la première année. Mais c'est beau aussi de se jeter à l'eau, hein, vous savez. Il faut accepter de se jeter à l'eau. On ne comprend pas tout. Ne vous inquiétez pas. quand j'ai commencé mes cours ce jour, j'ai mis 6 mois à comprendre les cours. Et c'était mon frère qui faisait les cours. Donc il devait y avoir quand même un langage maternel entre nous qui faisait que je voulais le comprendre plus. À la fin du premier cours, je lui ai dit, j'ai rien compris du tout. Alors il m'a simplement dit, tu crois que je fais les cours pour toi ? Alors vous voyez, je dis ça pour la première année. Hein. Vous croyez que je fais les cours pour vous, première année ? Non, je les fais pour la troisième année. Parce que si je le faisais pour la première année, la troisième année dormirait. Tandis que si je le fais pour la troisième année, la première année s'excite. Pour s'éveiller un peu, vous dire, bon, essayons de comprendre, on s'accroche. Et puis le jour où vous décrochez, ben, vous allez trouver, vous allez me voir, quand vous décrochez, puis on vous remet sur la selle, puis vous repartez. Parce que c'est comme ça que ça se fait, hein. Vous savez, c'est sportif la philosophie. C'est très sportif et ça maintient une jeunesse d'esprit, ce qui est extraordinaire. C'est, et alors c'est la course à obstacles. Et vous verrez, les obstacles cette année-ci sont particulièrement forts cette année-ci pour la philosophie première. Ce qu'on va voir, c'est un obstacle qui dure depuis le 14e siècle. Il y a eu un été noir au 14e siècle. Et cet été noir, on l'a répété, ce qu'il y a de bon. Avec des gens très intelligents, ils ont répété, ils n'ont pas vu la différence d'un été noir. Parce qu'il y a des philosophies été noires. Ça, c'est sûr. Les idéologies sont des étés noirs de la recherche de la vérité. Et la vraie philosophie, elle a quoi ? Elle doit au contraire purifier et augmenter le désir de la vérité. Parce que les idéologies, ce sont vos idées qui sont la mesure de la vérité. C'est un été noir. Parce que vous n'êtes pas la mesure de la vérité. Tu vois, j'espère que vous avez déjà découvert ça. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vous le découvrez durant le noviciat. C'est que votre intelligence est faite pour vous dépasser. Rechercher une vérité qui est plus grande que l'homme, qui est plus grande que vous. Tandis que dans les idéologies, les idées noires de la vérité, on est replié sur soi et on croit que c'est nous qui sommes la vérité. Bien sûr, au 14e siècle, on a supprimé, on a éteint le vrai ressort de la recherche de la vérité. Alors, il y a toujours eu, grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu, il y en a toujours eu qui ont quand même maintenu la flamme. Hein. Mais en majorité, dès le 14e siècle. Vous savez, le démon est astucieux. Il s'y prend longtemps avant. Et il sait que si on met tout de suite devant l'erreur, les gens ne marcheront pas. Mais les opinions. Les opinions, c'est des simili-vérités. C'est des vérités apparentes. Alors on se laisse prendre au piège. Et depuis le 14e siècle, on peut dire que la métaphysique est éteinte. Vous savez, Thomas d'Aquin, ça n'a pas duré longtemps. Mais heureusement que Thomas d'Aquin est au-dessus de l'histoire. Comme nous. On est au-dessus de l'histoire. Cherche la vérité, parce que la vérité n'est pas dans l'histoire. Les opinions sont dans l'histoire, mais la vérité est au-delà, elle dépasse, elle va plus loin. Et c'est ça qu'on doit rechercher tout le temps. Oui. Donc, c'est pas étonnant, c'est pour ça qu'on met ce cours, quand vos intelligences sont encore très vives, n'est-ce pas ? Début de la journée. C'est bon, on a vu que c'était excellent de faire le cours de métaphysique avant le petit déjeuner. Parce que dès que vous avez pris le petit déjeuner, vous êtes retenu. Alors tu dis, pourquoi faire un effort ? Digérons le petit déjeuner, n'est-ce pas ? Tandis qu'avant, vous désirez, en bon moine mendiant, acquérir ce qui vous sera donné gratuitement, un petit déjeuner, pour pouvoir vivre toute la matinée. Parce que si on ne vous donnait pas de petit déjeuner, oui, on ne veut pas faire cette expérience. Hein. Mais si un jour, après le cours de métaphysique, prier. Je ne sais pas si on chanterait le Gloriant, pardon. Ça devrait être ça, pourtant. Oui, la recherche de la vérité est difficile, mais elle est merveilleuse. Parce qu'on retrouve une intelligence à l'état natif. Enfin, c'est cette parole de ce jeune dominicain converti, de grand-père marxiste, père marxiste, lui-même marxiste, converti à 23 ans, et entrant chez les dominicains, parce que un de ses professeurs marxistes avait dit « Il n'y a que deux métaphysiques possibles, Thomas d'Aquin et Marx. » Alors, comme il disait, le Christ a converti mon cœur. Mais s'il me laisse le soin de convertir mon intelligence. Or, le Christ a converti votre cœur puisque vous êtes entré au noviciat. Puisque vous êtes entré dans la communauté Saint-Jean. Donc le Christ a converti votre cœur, autrement seriez-vous entré. Ça c'est bien, bien évident. N'entre là que les convertis. Converti depuis le baptême, converti depuis 5 ans, converti depuis 10 ans, converti depuis peut-être très peu de temps, c'est possible. Le Christ a converti notre cœur, il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Et le soin de convertir votre intelligence, c'est ce cours de philosophie. Il est fait pour cela. Convertir votre intelligence pour avoir un regard juste et vrai sur l'homme. Parce qu'on fait la métaphysique pour connaître l'homme, pour connaître ce qu'est la personne humaine dans toutes ses exigences les plus profondes et dans sa réalité la plus concrète. Faut pas croire marcher sur la tête. La métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus concret. Ça qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Et depuis le 14e siècle, on a identifié la logique. Et on continue d'identifier la logique. Puisque nos chers dominicains, nos chers bénédictins de Solève font un cours magistral de logique. C'est annoncé. J'ai reçu l'invitation. Alors j'ai envie de partir pour écouter. Et alors je me mettrai dans le camp de ceux qui rouspètent, n'est-ce pas? Et qui disent non. Aujourd'hui, on a un climat, il faut la logique, hein. La logique est nécessaire. On fera un petit cours de logique si on a le temps. Mais vous voyez, c'est pas premier. Ce qui est premier aujourd'hui, c'est de redécouvrir le réalisme de l'intelligence. Or, c'est pas la logique qui fait découvrir le réalisme de l'intelligence. Puisque la logique regarde l'universel. S'il n'y avait pas d'universel, il n'y aurait pas de logique. C'est l'universel que regarde la logique. C'est-à-dire un être de raison. Quelque chose que mon intelligence fabrique. Et c'est pas le réel. Vous n'avez jamais vu l'universel se balader. Se croiser l'universel dans les couloirs. Découvrez des individus et des personnes n'existent que des réalités singulières. Le chat comme chat n'existe pas, mais il y a Minet. C'est la réalité. C'est ça qu'il faut regarder, la personne humaine. Et qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Dans ce cas-là, de tout à fait fort. Vous voyez, la métaphysique prend pour nous une valeur très importante, du moins une exigence, disons. C'est plus, c'est pas une valeur, une exigence très grande, très profonde. Nous vivons dans une Europe qui gémit dans les gémissements de l'enfantement. Je ne sais pas si ce sera un mort-né. ami des retraitants, un ingénieur de premier ordre, invité, il est venu me poser la question. Très sérieusement, dois-je accepter, dois-je refuser? Paraît-il qu'il y a un projet, je ne savais pas, c'est lui qui m'a dit ça, un projet extraordinaire de construire pour l'Europe qui gémit dans les gémissements de l'enfantement. Construire le plus grand pont de l'unité de notre terre. Et la première œuvre que ferait l'Europe serait de construire un pont entre Norvège et Suède pour que, dans la vision aérienne, on voit l'unité de l'Europe. C'est génial, hein? Incapable de faire un acte de foi. Et trop à la fois, d'être au service de la lumière. C'est pour ça qu'on met des cours de métaphysique dès le noviciat, parce qu'on juge que ça fait partie du dégraissage généralisé de l'homme d'aujourd'hui, qui a besoin de purifier son cœur en demandant à l'Esprit Saint de le purifier, de purifier ses passions, de purifier son imagination. Mais il y a deux manières de purifier son imagination. Deux manières. Il y a une manière par l'Esprit Saint. Alors ça, c'est le noviciat. Purifier votre imagination pour qu'elle ne soit pas tout le temps l'allié de vos passions. Parce que ce qui est terrible, c'est l'alliance de l'imaginaire et des passions. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre du Père Maître. C'est l'œuvre du noviciat, proprement dit. Et puis, il y a une autre manière de purifier son imagination. C'est par la soif de vérité. L'intelligence est capable de se servir de l'imagination. Mais d'une imagination qui soit dans le prolongement de l'expérience. Et non pas d'une imagination qui est comme une plante de serre surchauffée qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui va n'importe où. Celle-là ne peut plus être utilisée pour la recherche de la vérité. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a une purification active et une purification passive. Alors la purification passive, c'est le noviciat proprement dit, où on doit maintenir une chaleur spirituelle et une ferveur spirituelle qui permettent que l'imaginaire petit à petit dégringole et tombe. L'imaginaire dans ce qu'il a, hein, de la ferveur de l'imaginaire. Parce que les cinémas, la télévision sont faites pour maintenir la ferveur de l'imaginaire. Et alors à ce moment-là, l'imaginaire nourrit les passions. C'est toute la ferveur de l'imaginaire qui nourrit les passions. Alors purification, ça, au noviciat, purification active. Éveillez votre intelligence et réveillez votre intelligence qui peut-être n'a jamais été éveillée. C'est possible. C'est de rester dans la raison. Et la raison, c'est laisser prendre par l'imaginaire. Et vous croyez penser quand vous êtes dans l'imaginaire. Et vous ne pensez pas du tout, vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans votre rêve éveillé. Et il y a des novices, pas au bout du noviciat, mais au début du noviciat, qui restent dans le rêve depuis le début jusqu'à la fin de la journée. Et ils croient penser, mais non, ils rêvent. Vous savez, c'est pas si commode que ça de discerner. Aristote lui-même le dit. Que beaucoup de philosophes avant lui ont confondu l'image et la pensée. L'image et le concept. Et on est là, arrivé à discerner la différence de l'intelligence qui pense et l'imaginaire qui imagine. Vos imaginations et votre pensée, c'est pas si commode que ça. Et on fait de la philosophie pour que vous arriviez à discerner les deux. Vous ne pourrez discerner les deux que d'une manière positive, c'est-à-dire quand votre intelligence sera suffisamment active, suffisamment pensante, suffisamment pénétrante, vous verrez que ce n'est pas l'image, que c'est autre chose, que c'est un domaine merveilleux où on découvre la vérité. Autrement, on est incapable de discerner les opinions de la vérité. Et les opinions, c'est les propagandes. C'est fou ce que c'est. Aujourd'hui, les gens vivent de l'imaginaire. Alors la foi, au bout d'un certain temps, périclite. Parce qu'il n'y a plus de support. Le support de la foi, c'est votre intelligence qui cherche la vérité. Et si votre intelligence ne cherche pas la vérité, vous n'avez pas un support profond de la foi. Vous avez une intelligence liée à l'imaginaire, et tellement liée à l'imaginaire qu'elle ne peut plus s'exercer dans la recherche de la vérité. Et le support de la foi n'est pas l'intelligence liée à l'imaginaire. L'imaginaire n'est pas le support de la foi. C'est pour vous montrer que ce cours organisation et d'efficacité. Ce sont des barbares, hein, ces gens-là. Et puis, des païens. Et à partir de là, il y a une philosophie portée par la foi. L'Europe a été cultivée par des croyants, par des moines.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça au sérieux. Il écrit un livre. Qu'est-ce que
dit Brigitte. Je trouve ça merveilleux. Dans la fin de notre 20e siècle, ce dialogue du petit enfant qui pose la question « Qu'est-ce que c'est que l'âme ?» Et il n'était jamais aperçu jusque-là que sa science biologique ne disait rien de l'âme et que l'âme existait. Et que si l'homme existe comme un vivant, c'est grâce à son âme. Et donc il devait peut-être un tout petit peu mettre un bémol à toutes ces connaissances biologiques qui rejettent l'âme, qui est source de vie. Et ça l'a secoué. Alors il termine en disant, oui, les spirituels parlent de l'âme. Vous voyez, on revient à Platon. L'âme de l'âme. Platon, avec ses connaissances de l'Inde, avec les traditions religieuses de l'Inde, on parle de l'âme et du corps. Et Platon se pose la question, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Voyez, le philosophe fait la distinction entre le mythe et la réalité, le mythos et le logos. Aujourd'hui, la philosophie fait la distinction entre les vérités qui viennent de, qui sont pour l'homme, qui sont une nourriture de l'intelligence, et les opinions qui sont des mythes, qui sont constamment des mythes. Et on tombe dans le panneau, et on ne fait plus la distinction entre la vérité et le mythe. Et ça, la philosophie grecque a commencé ça. Et puis alors, il y a eu un tournant quand on a quitté les théologiens, quand l'Europe n'a plus été l'Europe chrétienne. Il y a eu cette question. Le cogito Descartes. Et avant Descartes, cette question s'était posée chez les théologiens, puisque c'est eux qui ont commencé à dire quel est le point de départ de ma connaissance, mon idée. Ils ont remplacé le jugement d'existence par l'idée. Et l'idée prise comme une réalité première, c'est un mythe. Et à partir du mythe, on a créé une idéologie à la place de dire que ce qui était premier, c'était la réalité, et que mon intelligence dépendait du réel. On a dit le réel dépend de mon intelligence dans sa signification. Et la signification, elle vient de mon intelligence, et je l'applique. De sorte que, on peut dire, quand on regarde le développement philosophique de l'Europe, qui se termine par les idéologies athées, de croire que son développement est tout à fait authentique. Il y a un tournant. Le primat du « je suis » de Descartes par rapport à « ceci est ». Et nous verrons que c'est ça qui est la clé qui me montre ces deux développements très étonnants de la philosophie européenne. Très étonnants. Je pars de la foi. J'assume une pensée grecque. Et cette pensée grecque, assumée par Thomas d'Aquin, c'est celle d'Aristote. Alors que la première pensée assumée par les premiers théologiens, c'est le stoïcisme, puis le néoplatonisme, puis enfin Aristote. Et saint Thomas assume une métaphysique. Et une métaphysique revit grâce à Thomas d'Aquin. Il y a Descartes alors qui dit ça justement. Il dit pas ça comme ça, parce qu'il le dit avec élégance. C'est assommant d'être dépendant des théologiens. On est en tutelle des théologiens. d'un côté, une montée jusqu'à Thomas d'Aquin. Et ça, il faut reconnaître, c'est un sommet. Ça, je peux l'affirmer historiquement et philosophiquement, c'est un sommet. Et à partir, oh, pas tout de suite après Thomas d'Aquin, Descartes n'est pas né à l'ombre de Thomas d'Aquin. Il y a eu toute une série de théologiens qui ont commencé à douter, qui ont commencé à identifier métaphysique et logique. Occam. Et d'Occam est né Descartes. Parce qu'il y a eu identification de la métaphysique et de la logique. Et depuis, on n'en est pas sorti. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'en sortir. Parce que c'est gros d'identifier métaphysique et logique. Et Occam le fait. Un théologien anglais qui est en plus de ça franciscain. Alors quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence, il dit intelligo et amo Socratem. Qu'est-ce que dit Descartes? Cogito. On passe de intelligo à cogito. Mais tous les deux considèrent qu'il y a de premier, c'est leur pensée. C'est leur idée. Je pense. Si je pense, le monde est sauvé. C'est un peu ça. Le monde peut crouler. Ça n'a pas d'importance. Moi, je pense. Et le monde ne me dit rien du tout. Je pense. Mon cogito. Mon intelligo. À partir de là, commence une philosophie qui est une idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? C'est de mettre mon idée mesure de la réalité. C'est de mettre mon idée en premier lieu. Alors, vous voyez, le problème crucial, un père dominicain qui enseignait à l'Institut catholique de Paris, qui enseignait encore la métaphysique, parce que depuis après lui, il a pu beaucoup. La dernière année de son cours à l'Institut catholique, il posait la question, y a-t-il deux métaphysiques? La métaphysique réaliste, la métaphysique du cogito de Descartes, une métaphysique objective qui met le primat sur la réalité, une métaphysique subjective qui met le primat sur la pensée. Et Gilson, quand il réfléchit au point de vue historien de la pensée, dit que c'est là le point de vue du détournement en quelque sorte. Les deux sources, le Rhône et le Rhin, tous les Suisses connaissent les deux sources, parce que la Suisse possède la source du Rhin et la source du Rhône. C'est sa richesse. Plus que les banques. Ça possède les deux sources, le Rhône et le Rhin. Et on voit que c'est tout proche, le Rhône et le Rhin. Et quand on les regarde dans leur courant, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. La culture du Rhône, la culture du Rhin. Intéressant. Eh bien, de fait, quand je regarde le développement de la philosophie en Europe jusqu'à nos jours, je vois qu'il y a eu au point de départ le réel, la réalité, comme point de départ. Je cherche ce qu'est cette réalité. Et l'autre, le point de départ, le cogito, l'intelligo. Mais le cogito, je commence par mon idée. Pour Descartes, on a des idées infuses. L'idée d'infini. Et c'est l'idée d'infini qui est première. L'idée de la liberté qui exige l'infini. la métaphysique de la pensée doit être absorbée par la métaphysique de ce qui est la métaphysique réaliste. Je crois que c'est important au point de départ de notre analyse métaphysique de bien comprendre cela. Il y a le même phénomène dans la philosophie de l'Inde. Le chien collier et